Donc, nous en sommes à la deuxième grande partie du Bodhicharyavatara, c'est-à-dire les chapitres 4, 5 et 6, qui parlent de comment maintenir l'esprit d'éveil après qu'on ait vu comment le développer dans les chapitres 1, 2 et 3. Donc, sur ces trois chapitres de la deuxième partie, nous en avons déjà résumé deux et nous parlons donc maintenant du dernier chapitre de cette partie. Donc, qui est le chapitre 6 sur la patience. Quand on avait commencé l'enseignement il y a quelques années, on en était venu au chapitre sur la patience. Mais ensuite, pour tout un ensemble de raisons, l'enseignement n'avait pas pu se poursuivre. Et donc, j'ai donné, lors des sessions précédentes, un résumé très condensé des chapitres précédents. Qui avait donc déjà été couvert lors de cette première tranche d'enseignement. Donc, le chapitre de la patience, il porte sur trois points. Le premier point, c'est l'importance de comprendre à quel point c'est important de laisser s'en aller la colère et la haine. Le deuxième point, il explique comment pratiquer, comment cultiver la patience. Et dans ce deuxième point, on présentera aussi différentes formes de patience. Et enfin, dans le troisième point, c'est un point qui explique comment respecter les êtres sensibles, comment témoigner du respect aux autres êtres sensibles, en faisant en sorte que ce respect, on le témoigne du fond de notre cœur. Donc le premier point, c'est sur comment laisser passer la haine et la colère. Donc en général, on peut trouver beaucoup de malentendus en ce qui concerne la colère. Par exemple, souvent, les gens pensent que si, par exemple, ils sont témoins de quelque chose qui est en train de se produire et qui est nuisible, qui est négatif, et si ils ont face à cette chose l'envie de faire que cela s'arrête, imaginons, eh bien, souvent, une personne qui ressent qui est dans cette situation, confrontée à quelque chose de négatif et qui a envie de faire quelque chose par rapport à ça, en fait, elle va dire qu'elle est en colère concernant cette situation. Et en un sens, peut-être que c'est vrai qu'elle ressent de la colère. Mais d'un autre côté, cette réaction en elle-même n'est pas nécessairement de la colère. En fait, cette réaction, on pourrait tout aussi bien dire que c'est de la compassion, puisque ce qui se passe en réalité, c'est que vous voyez par exemple quelqu'un qui commet beaucoup d'injustices, que ce soit envers vous ou envers d'autres personnes, ou si vous voyez des choses négatives qui sont en train de se produire et vous n'aimez pas ça du tout. Vous ne voulez pas du tout que ça se produise. Du fond de cœur, votre souhait, c'est que cela s'arrête. Eh bien, cette attitude-là, en elle-même, n'est pas de la colère. Et en réalité, elle aurait beaucoup plus à voir avec de la compassion. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que ce qui est en nous-mêmes, dans notre esprit, de la compassion, on va l'exprimer sous forme de colère. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vraiment comment faire autrement. On ne sait pas comment faire pour exprimer ce qu'on ressent en nous sous une forme de compassion. On a toujours une sorte de haine envers les personnes supposées être les auteurs de ces actes négatifs. Et alors, on se dit que si on pouvait les punir, si on arrivait à les sanctionner, ou même si on arrivait à nous débarrasser d'eux, à les éliminer, alors le problème s'en trouverait de lui-même résolu. Et on a vraiment cette croyance que ce sont ces personnes qui sont mauvaises et qui sont la cause du problème, et que donc, si on arrivait à s'en débarrasser, le problème serait vraiment résolu de façon définitive, une fois pour toutes. Mais si on pense ainsi, c'est parce que ce qui nous fait penser ça, c'est qu'on manque d'une vision un peu plus globale de la situation, en un sens. Parce que finalement, en y réfléchissant bien, même si on arrivait à se débarrasser de ces personnes, alors il se pourrait très bien que d'autres personnes viennent les remplacer et fassent à leur tour ces choses négatives. Il pourrait très bien arriver aussi que d'autres situations se mettent en place qui apporteraient à leur tour exactement le même genre de problème. Et enfin, une autre chose qui pourrait se produire, c'est que les personnes qui, pour le moment, sont l'objet de l'injustice, elles pourraient très bien en venir à prendre le pouvoir et ensuite à devenir celles qui commettent l'injustice. Celle même à laquelle dont elles étaient l'objet précédemment. Elles pourraient très bien les commettre envers d'autres personnes. Et donc, quand nous voyons un problème et que nous nous disons que ce problème devrait être résolu, il ne faudrait pas voir les choses en termes de c'est telle personne qui devrait être vaincue, ou alors la situation. Et il faudrait pas penser que le fait de vaincre des personnes changerait la situation. Ce qu'il est important que nous comprenions, c'est que le point sur lequel on devrait porter toute notre attention, ce n'est pas de punir des gens, ce n'est pas de nous débarrasser de certaines personnes, mais plutôt on devrait réfléchir en termes de comment résoudre le problème. Non pas avec de la haine et de la colère contre certaines personnes, non pas en prenant parti, en se mettant dans un camp contre un autre camp, parce que si on fait ainsi, alors ça devient, on transforme la situation en un combat, et une autre lutte va succéder à cette première lutte. Et si notre camp gagne, on pourrait très bien faire le même genre de choses à notre tour, commettre les mêmes atrocités que les autres nous faisaient subir à nous initialement. Et donc, cette attitude qu'on a de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on est témoin d'une injustice, le fait que cette injustice nous rende malheureux, qu'on se sente concerné, ceci est en soi une très bonne chose. C'est quelque chose de très positif, de très positif. Si on ne ressentait pas ça, ça voudrait dire qu'on serait des personnes totalement insensibles quelque part. Mais une fois qu'on a ce sentiment qu'il y a là une injustice à laquelle il faudrait remédier, mettre un terme, alors, au lieu de se mettre en colère, au lieu de devenir plein de haine envers les autres, si on pouvait simplement comprendre que cette situation devrait s'arrêter, que pour y parvenir de façon durable, on devrait faire quelque chose qui serait positif pour tout le monde, pour les deux côtés en quelque sorte, et se demander comment on pourrait faire cela, là on serait dans une attitude plus constructive. On essaie de comprendre pas seulement les difficultés qui sont endurées par ceux qui souffrent de ce problème, mais on essaie aussi de comprendre ceux qui infligent cette situation. Parce que, en fait, eux aussi sont sous l'effet de beaucoup de causes et de beaucoup d'effets, et ils ont ceux qui infligent la situation, ont eux-mêmes beaucoup de peur et beaucoup de crainte, et il y a également, il leur arrive également à eux beaucoup de choses négatives, et en fait, eux aussi, en un sens, ils vivent beaucoup de contraintes à beaucoup de niveaux. Ils sont, oui, ils sont coincés quelque part. Et donc, quand on a un peu réussi à regarder la situation un peu en profondeur, sous tous les angles, alors, au lieu de ressentir de la colère, on ressent de la compassion. On comprend la situation dans sa globalité. Et alors, notre esprit va se focaliser davantage sur comment améliorer les choses pour tout le monde, plutôt que sur l'idée qu'il y aurait des gens qu'on n'aime pas ou qu'on a de la colère ou de la haine pour telle et telle personne qui serait la cause du problème. Ça, c'est le point principal à comprendre ici. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faudrait ne rien faire. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faudrait pas se battre pour des causes. Ça ne signifie pas non plus qu'il faudrait devenir totalement indifférent à tout ce qui arrive, quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait entreprendre aucune action, et ne pas venir en aide aux personnes. Ça ne veut vraiment rien dire de tel. Au contraire, nous devrions faire tout cela, nous devrions faire toutes ces choses. Simplement, lorsqu'on entreprend tout cela, ce qui est important, c'est que nous ne le fassions pas en nous laissant emporter par de la haine, de la colère ou de la rancune. Nous essayons de faire en sorte que notre esprit devienne plus vaste, plus patient, plus spacieux. Que nous ayons l'envie de faire quelque chose de vraiment bénéfique et utile à tout le monde. Et de ne pas rester avec et sur et dans notre colère. Ne pas devenir prisonnier d'elle. Parce que si nous tombons complètement sous le pouvoir de la colère, de la haine, etc., alors ça sera une chose très négative pour nous. D'abord, ça va nous rendre nous-mêmes très malheureux. Ça rend notre esprit étriqué. Ça nous rend biaisés. On prend parti. On devient partiaux. On arrive à voir les choses plus que d'un seul côté. Il y a notre côté et le côté d'en face. On n'arrive plus alors à ressentir ce sentiment de bienveillance envers tout le monde. Et puis, si la haine et la colère sont en nous, alors nous sommes malheureux. En leur présence, on ne peut pas se sentir léger, on ne peut pas se sentir bien, on ne peut pas du tout avoir de compassion et de bonté non biaisée quand on a de la colère et de la haine. Et donc, on comprend que, d'une part, ce sentiment qu'ont la plupart des gens, que c'est bien d'essayer de faire quelque chose pour combattre les injustices, les choses négatives qui se produisent, d'essayer de venir en aide aux autres, de se battre pour une juste cause, on comprend que d'une part, ce sentiment est positif, et il est quelque chose de même très positif, et on comprend que d'autre part, à partir de ce sentiment, il est important, quand nous agissons, que ce ne soit pas en étant complètement submergé et subjugué par la colère et la haine. Parce que si ce qui nous pousse à faire quelque chose est la colère et la haine, alors les choses se termineront toujours, nécessairement, par de l'agression. Au bout du compte, il y aura toujours un résultat nuisible qui causera du tort à des gens. En agissant ainsi, nous croyons sincèrement que, en agissant ainsi et en nous laissant agir alors que notre esprit est sous le pouvoir de la colère, nous croyons sincèrement que ça va aider et que ça va apporter quelque chose. Et peut-être qu'éventuellement, oui, ça apportera un petit peu, oui, mais ça ne fera pas que aider, ça ne fera pas que apporter quelque chose de positif. Ça sera aussi cause de nuisances et de problèmes. Et aussi, tant qu'on a cette haine et cette colère en nous, c'est très négatif. Souvent, on compare la haine et la colère au feu. Elle brûle tous les objets qui entrent en contact avec elle. Donc, par exemple, dans le cas de la colère et de la haine, elle brûle les objets de la colère et de la haine, dans le sens où on essaie de nuire aux gens envers qui on a ce genre de sentiments. On essaie de les détruire, on fait tout notre possible pour nous en débarrasser, pour leur nuire. Mais aussi, ce feu, en plus de brûler les objets, il nous brûle nous-mêmes. Par exemple, on n'a jamais entendu personne dire « Hier ou ce matin, j'étais en colère et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a rendu très heureux. » Jamais on entendrait quelqu'un dire ça. La colère, en fait, c'est un état qui est perturbé de l'esprit. Et c'est pourquoi c'est un état qui est forcément incompatible avec le bonheur. C'est un état d'esprit qui est forcément malheureux, dans lequel on va forcément créer des problèmes pour les autres et pour soi-même. Le feu, il brûle ce qu'il touche, mais il se consume aussi lui-même. À la fin, il ne reste plus que des cendres, il ne reste plus rien. Et le fait de comprendre ça, évidemment, ça ne va pas nous permettre de nous débarrasser définitivement de toute notre colère, de toute notre haine, de tous nos sentiments négatifs, juste comme ça, en un claquement de doigts. Bien sûr que non. Parce que c'est extrêmement difficile de se débarrasser de ces sentiments. Mais être capable de comprendre que le fait de couver sa colère, de couver sa haine, de couver sa rancune n'est pas bon pour moi, n'est pas bon pour les autres, n'est bon ni dans l'immédiat, ni à long terme, le fait de comprendre ça constitue en soi un point de départ. Quand on comprend ça, alors on commence à vraiment ressentir pourquoi ça a du sens de laisser s'en aller ces sentiments. On peut commencer à laisser s'en aller ses sentiments. On n'a plus besoin d'être en colère, ni contre soi-même, ni contre les autres. Et souvent, le sentiment de culpabilité, lui aussi, il est lié à une forme de colère contre soi. Par exemple, quand on se dit « je devrais être comme ceci » ou « je ne devrais pas être comme cela », donc on se culpabilise parce qu'on est déstabilisé par ce qui se passe, par ce qu'on est ou par les actions qu'on a faites. Et on en ressent une forme de colère. Et donc, ça c'est le premier point, que parmi toutes les émotions négatives, ce sont la haine et la colère qui sont les émotions les plus négatives et les plus dangereuses, on pourrait dire. Les autres émotions négatives, évidemment, elles ont leurs aspects négatifs, mais elles ne sont pas aussi fortement négatives et destructrices que la haine et la colère. Et donc, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Et si on le comprend, alors on peut commencer tout doucement à pratiquer la patience. Parce que, et c'est vrai pour tout, il ne s'agit pas de nous forcer. Et c'est quelque chose qui est valable et qui est très important de comprendre de manière plus générale. La pratique bouddhiste, elle ne consiste pas à se forcer. Par exemple, si mon maître m'a dit de ne pas me mettre en colère et de ne pas être déstabilisé, alors, soi-disant, je ne devrais pas me mettre en colère. Eh ben non, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne peut pas marcher comme ça, en fait, de toute façon. Et donc, même si mon enseignant me disait de ne pas me mettre en colère, et si j'essayais, par exemple, de me promener avec un sourire de façade qui ne correspondrait pas à ce que je ressens au plus profond de moi-même, si j'avais sur mon visage un sourire d'acteur, en quelque sorte, ça ne marcherait pas. C'est pas du tout de ça que l'on parle ici. Ce dont on parle, c'est que nous comprenions, mais au plus profond de nous-mêmes, pourquoi trop de colère, trop de haine, trop de rancune n'est pas bon, n'est pas utile, n'est pas bénéfique pour moi et pour les autres, maintenant et à long terme. Quand je suis amené à expérimenter ça dans ma vie, à cause de mes tendances, des situations que je rencontre, etc., je peux voir que ce n'est pas quelque chose à quoi il est bon pour moi de m'accrocher. Ce n'est bon ni pour moi, ni pour les autres. Bien sûr, parfois, ce n'est pas facile de ne pas s'accrocher et de laisser tout cela s'en aller, parce que on a déjà tellement de choses qui se sont mises en place, tellement d'idées qui sont là, que c'est très difficile pour nous de lâcher. Mais quand on voit tout ça, je vais pouvoir apprendre davantage, trouver d'autres façons de penser. Quand j'apprends cette façon différente de comprendre, de voir les choses, d'y réagir, alors ça va devenir de plus en plus naturel de voir que oui, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose de se mettre en colère. Bien sûr, parfois, il est nécessaire d'agir d'une façon ferme, d'agir avec force, d'agir de façon courroucée. Mais ça ne veut pas dire, même dans ces cas-là, que nous devions nécessairement ressentir de la colère en nous et être complètement remplis de cette colère. Parfois, même les combattants, les pratiquants des arts martiaux, nous expliquent que même dans le cas où vous vous battez avec quelqu'un, dans un contexte militaire par exemple, même dans ce cas-là, dans le cas d'une bataille ou d'une guerre, même dans ce cas extrême, ils nous disent que si votre esprit a trop de haine ou trop de colère, alors vous ne pourrez pas devenir un bon combattant. Vous ne pourrez pas devenir un bon soldat. Parce que pour être en mesure de devenir un bon soldat ou un bon combattant, vous avez besoin, au contraire, de devenir, d'avoir plus de calme dans votre esprit. Et donc, il s'agit de ne pas succomber à la haine, à la colère, mais plutôt de faire les choses d'une façon qui vous soit bénéfique à vous-même et qui soit bénéfique à tout le monde. C'est le premier point. On en vient au second, qui est donc de générer ou de développer la patience et de pratiquer la patience. La prochaine fois, on parlera de ça. En fait, quand on avait commencé l'enseignement la première fois, on s'en était arrêté un peu au milieu de ce second point, de comment développer la patience. Donc j'essaierai la, j'en parlerai la prochaine fois. Et j'espère que vous allez tous bien et que la pandémie qui ravage le monde en ce moment se résorbera bientôt. Et je vous envoie tous mes souhaits et toutes mes prières à tous. Merci beaucoup.